Ce soir, mon amour, je ne t'aime plus, tu es plus loin de la distance qui nous sépare, et d'autant plus absente que tu n'es nulle part, plus étrangère que la première revenue. Ce soir, mon amour, je ne te cherche plus parmi mes souvenirs au fond de ma mémoire. Je ne t'attends plus sur le quai d'aucune gare. Je me souviens à peine d'y avoir attendu. Je sais que nous buvions du vin après l'amour, que la nuit commençait quand se levait le jour. Comme un torrent d'ébène, tes cheveux sur ton cou, et ton regard meurtri quand tu fais les yeux doux. Ce soir, mon amour, je ne te trompe plus avec cette fille qui dort à mes côtés. J'étais seul, je lui ai demandé de rester. Je suis seul très souvent et je m'y habitue. Ce soir, mon amour, tu ne me manques plus, tu ne me manques pas. Il me manque d'aimer, de ne plus être inutile, inanimé, de n'avoir rien à perdre et d'avoir tout perdu. Je connais ta folie, je connais ta pudeur. Je sais qu'on se ressemble comme frère et sœur. Je connais ton odeur, je connais ton parfum. Je te connais par cœur et je ne sais plus rien de toi, mon amour, que je n'aime plus sans arriver à me sentir enfin libre, pareil à un danseur qui perdrait l'équilibre
comme un prince en disgrâce, comme un ange déchu.
Libertaire, 89.4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste, et c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie. Bonjour. Alors, voilà, j'ouvre ton micro, Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
Et nous allons poursuivre notre exploration de l'association de ces deux mots, anarchisme et psychanalyse. Politique et psychanalyse.
Oui, évidemment, voilà. Comme on est sur Radio Libertaire, on va s'intéresser plus à l'anarchisme. En même temps, ce serait très embêtant parce que, à part celui qui est le pire de tous, qu'on a déjà fait, Roger Dadoun, globalement, les psys qui prétendent pouvoir associer politique et psychanalyse se réclament plutôt du marxisme. Hein, d'après ce que j'ai vu. Je m'y connais pas à mort en marxisme, mais enfin, on peut quand même jouer au jeu des sept différences avec les idées anti-autoritaires, quand même.
Anarchiste, oui.
Voilà. Donc, on a déjà fait Castoriadis et puis d'abord Dadoun. Enfin, un peu, on a commencé pour Dadoun par l'artillerie lourde, puisque, en effet, encore une fois, c'est le plus immonde de tous. Je crois quand même qu'il crève un peu le plafond. Les autres sont quand même pas si pourri, je trouve pas d'autre mot, désolé, que plus intellectuel pour dire les choses comme ça, mais quand même quelqu'un qui justifie le viol, je vois pas comment tu peux faire pire que ça, mais enfin, le truc, c'est que là, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à un gros morceau quand même, c'est Reich, parce que ce qui est intéressant, c'est les fans, finalement. Enfin, je veux dire, on pourrait dire le pauvre est mort il y a longtemps. Enfin, voilà, quoi. À ma connaissance, il a jamais fait enfermer personne, ce qui est toujours ça de prix pour un psychiatre. Enfin, pour un psy,
oui.
Je veux dire, c'est vrai. C'est toujours bon. Mais enfin, le fait est que c'est une énorme référence, y compris chez les libertaires. Très, très bizarrement pour quelqu'un qui se réclamait plutôt du marxisme. Et donc, je vais être honnête, j'y connaissais pas grand-chose. J'avais vaguement entendu, enfin, sur Reich, hein, je savais qu'il y avait des gens qui sont chez les libertaires qui s'en réclamaient. J'avais vu, mais vraiment en diagonale, des trucs sur un truc qui s'appelle l'orgone et qui m'avait eu l'air, faut être honnête, un peu new age, quand même.
Oui, c'est... Hein? Oui, alors c'est parce qu'en fait, son idée c'était d'avoir regardé le ciel et en regardant, et en voyant des petits trucs qui bougeaient, des petites microscopiques qui bougeaient, devant ses yeux en fait. Et donc, il s'est dit, ah oui, il y a quelque chose de. Enfin, voilà, c'est il y a quelque chose qui existe et dont on ne parle pas. Et il a appelé ça l'orgone.
Il ne prenait pas des champignons. Je me demande, enfin, c'est bizarre. Oui, d'accord. Oui. Mais en tout cas, du coup, en effet, on ne va pas faire qu'une émission sur lui, parce que déjà, on peut en parler plus en général. Et donc, les semaines suivantes, je pense qu'on pourra revenir de façon plus précise sur son parcours et sur les super idées qu'il avait. Enfin, je dirais pas qu'il était mégalo, c'est un diagnostic et j'aime pas l'idée de faire des diagnostics psy. Et honnêtement, je ne sais pas quelles étaient ses motivations, si tu veux vraiment. Mais on va dire qu'il était ambitieux. Alors pourquoi ? Ça pourrait être parce que réellement, sincèrement, il était très concerné par la misère du monde en général et que il avait envie de trouver une réponse à tous les problèmes. En tout cas, ça, je peux l'affirmer parce que c'est très clair, si tu veux. Il pleut pas dans le désert, ça lui brise le cœur, il fait une machine avec des tuyaux pour faire pleuvoir dans le désert. Tu m'as dit que son fils avait essayé de continuer ses recherches.
Ouais, il a écrit un bouquin.
C'est les mêmes tuyaux, des nouveaux tuyaux.
Alors voilà. On en parlera peut-être à un moment.
Oui, une prochaine fois. Oui, c'est pour vous donner le personnage. Évidemment, attends, qu'est-ce qu'il avait aussi comme. Sur le fascisme, il allait résoudre ces questions-là. Du fascisme, effectivement, de toutes les injustices sociales. Et puis, bien entendu, les problèmes sexuels de l'humanité. Hein, donc c'est assez marquant parce que dans ce que j'ai lu sur un site qui s'appelle Libertaire et qui est plutôt prosélyte hein, sur lui, parce qu'encore une fois il a beaucoup de fans en fait.
Oui.
Hein, c'est vrai. Ben, et donc je sais pas pourquoi, d'ailleurs c'est un truc qui me surprend, mais bon.
Ben c'est vrai qu'il a eu beaucoup de succès dans les années 60 et 70, quoi.
Oui, mais il y en a encore maintenant, hein, je suis désolée, il y en a encore qui se réclament de Reich. Donc c'est vrai que les années 60 et 70, il y avait beaucoup, en particulier, il y avait une espèce de vent mystique, et il y a un côté un peu mystique quand même dans ce qui, moi je trouve, hein, dans tout ce qu'il peut dire, et surtout même ne serait-ce que dans son ambition, parce que c'est tellement, ça va tellement loin. Je veux dire, cette ambition que tu te dis, c'est pas le tout. C'est comme, je sais pas, c'est quelqu'un qui va te dire, je me rappelle, j'avais un copain qui était très très ambitieux comme ça et qui m'avait dit, je veux inventer quelque chose d'aussi nouveau que l'art ou la science. Tu dis, waouh, à boule les preuves, enfin.
Ah, oui.
Mais encore, bon, oui. Non, mais c'est en cours. Bon, d'accord.
Bon, tu vois ce que je veux dire. Que dire, Reich a été un élève de Freud.
Oui. Mais Freud était, si j'ai bien lu le truc que j'ai lu, Freud n'était pas d'accord. Freud n'était pas d'accord quand Reich n'était pas d'accord avec lui. Par exemple, Freud, qui quand même était aussi un peu. Enfin bref, un petit peu quand même un charlot, il faut dire les choses comme elles sont. Eh bien, il avait parlé de l'instinct de mort et Reich était pas d'accord avec ça, donc du coup, ça l'a pas fait, quoi.
Oui.
Voilà.
Bon, après, il y avait aussi les orientations politiques. Freud étant un peu plus, pas réac, mais disons plutôt conservateur, voilà. Alors que Reich se tournait vers le communisme.
C'est très joli, mais en même temps, si j'ai bien suivi ce qu'il exprimait, il avait trouvé quand même un biais, enfin en tout cas, il se proposait de résoudre le fascisme et les problèmes d'oppression sociale en général, mais il n'était pas foutu de faire changer d'avis un poteau, qui était quand même pas carrément, il était peut-être réac, mais c'était quand même pas Hitler, je veux dire, Freud. Il n'était pas foutu de le faire changer d'avis, mais c'est pas grave, il peut le faire, il peut résoudre le fascisme, il peut résoudre les problèmes d'injustice sociale. C'est comme mon copain qui va inventer quelque chose d'aussi nouveau que l'art ou la science. Tu dis pourquoi pas, mais je demande à voir quand même. Tu vas faire pleuvoir dans le désert, je demande un peu à voir. Et tu vas résoudre les problèmes sexuels de l'humanité. ben je demande un peu à voir aussi. Mmh. Et donc dans l'article donc qui résume un petit peu, et un article qui est plutôt dithyrambique hein, en plus, dans un site qui s'appelle Le Libertaire et qui est une sorte de Wikipédia si on veut libertaire quoi. Mmh. Eh bien je suis contente d'apprendre qu'il s'est au moins aperçu qu'il y avait des problèmes d'oppression de classe, quoi, je veux dire, d'injustice sociale. Et il va chez une ouvrière, d'après ce que j'ai lu, et il se rend compte, dis donc, s'il y a des problèmes qui peut-être vont pas être immédiatement résolus par ces méthodes pour essayer d'avoir des super orgasmes, hein, si j'ai bien suivi, et que en effet, dans la mesure où elle habite un taudis immonde, où elle est enfin plus ou moins surpeuplée, et que en plus elle est épuisée par son travail, c'est une ouvrière d'usine, que en effet c'est pas évident quoi, si tu veux, que son discours sur la satisfaction sexuelle tombe un peu à plat. Mais donc le truc qu'il a donc envisagé et même je crois mis en œuvre, c'est un dispensaire pour faire des sortes de sexothérapie quoi, tu vois. Et je ne suis pas sûre que les ouvriers se sont précipités dans ce dispensaire, enfin je veux dire c'est pas seulement une question de gratuité, si tu veux. Si quand t'es épuisé après ta journée de boulot et que t'es en plus dans un endroit surpeuplé, ça va pas être de la tarte pour arriver à grimper au ciel. Je veux dire, c'est pas une question de dispensaire. Et puis petit 2, c'est quand même le problème que autour de quoi tournent tous les gens qui prétendent lier la politique, enfin le militantisme politique, puisque si tu te proposes de venir à bout du fascisme, voire de tous les abus de pouvoir, de toutes les injustices sociales, c'est quelque chose qui devrait être collectif. Et je vois pas comment tu vas passer de l'un à l'autre, d'une introspection, aussi performante soit-elle, si tant est qu'il y a des introspections vraiment très performantes, mais c'est quelque chose qui se passe à l'échelle individuelle, et psychologie de masse, je veux bien. Mais c'est un diagnostic que tu me dis peut-être que oui, peut-être que non, parce que ça peut pas être une démarche scientifique au sens du protocole scientifique où tu dois pouvoir faire vérifier ton hypothèse par une instance indépendante et pouvoir la reproduire. Donc c'est une hypothèse, quoi. Mais en plus, tu dis, bah, une fois que tu penses que si les nazis étaient comme ils étaient, c'était parce que ils étaient mal sucés. Je veux dire, ça demande à être un petit peu démontré. Et puis, une fois que, même en admettant que ce serait vrai, ben, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Je veux dire, c'est un peu ça le problème devant quoi ils butent tous, en fait, en voulant faire cette onction.
Alors, il ouvrait aussi un cabinet, je crois, et il voulait vraiment guérir, soigner les gens à l'appel, quoi, presque pas en masse, mais vraiment, il voulait. Donc son truc, c'est l'analyse caractérielle, c'est-à-dire les tensions caractérielles, les dissoudre pour donc ça. Ouais, c'est...
Il avait une espèce de machine, je crois. Il n'avait pas inventé une espèce de machine, orgone.
Oui,
l'orgone, hein,
c'est ça. C'est un. Oui.
Orgonothérapie.
Alors là, on mélange tout. C'est-à-dire que on n'a pas. Il a eu une vie assez longue et donc l'article dont tu parles, c'est un peu une chronologie aussi de sa vie. Donc, je peux en lire à quelques extraits si tu veux. Alors. En 1925, Reich remet à Freud, à l'occasion de son 70e anniversaire, le manuscrit qu'il publiera l'année suivante, De Funktion des Orgasmus, la fonction de l'orgasme, assorti de la dédicace suivante, à mon maître, le professeur Sigmund Freud, en témoignage de profond respect. Reich mettait beaucoup d'espoir dans ce livre où il avait toute la majeure partie de ses découvertes cliniques sur l'orgasme. Freud l'a reçu sans enthousiasme. De plus, lui qui habituellement lisait un manuscrit en quelques jours, tarda 2 mois pour renvoyer à Reich une note assez laconique. Celui-ci en fut cruellement déçu. De 1927 à 1938, très engagé socialement, Reich tente une synthèse des apports de Freud et de Marx au sein de ce qu'il appelle l'économie sexuelle. Pour désigner la ligne qui s'affirme désormais comme sienne, Reich n'utilise plus dans ses travaux le terme psychanalyse, mais économie sexuelle. L'économie sexuelle est le prolongement de la psychiatrie de Freud à laquelle elle apporte le solide soutien des sciences naturelles, de la biophysique à la sexologie sociale.
Mon Dieu.
Dans cette dernière, il intègre le point de vue socio-économique de Marx et prête une attention particulière à la manière dont un individu emploie son énergie biologique en tenant compte des facteurs d'ordre sociologique, psychologique et biologique qui président à cette régulation. Toujours soucieux de prévention, Reich voudrait que la psychanalyse se préoccupe plus du besoin des masses. Il ouvre les dispensaires d'hygiène sexuelle, d'abord en Autriche, puis en Allemagne.
Ah voilà, c'est ce que je te disais. Bah, tu vois, on est toujours dans la même problématique qu'on a aussi un peu exprimé dans les émissions précédentes, avec Castoriadis en particulier, c'est que on voit bien qu'ils ont envie, enfin, il y a un côté tout est dans tout et vice versa, etc. Tout a un lien avec tout, moi je veux bien, mais on aimerait bien savoir quoi. Je t'expliquais tout à l'heure que la première émission de nuit qui a eu sur Radio Libertaire, c'était moi avec Laurent et un autre copain qui s'appelait Bruno, et on c'était sur le fantastique et l'horreur, quoi, comme c'est un peu mon rayon, on va dire. Mais par contre, c'était pas leur rayon du tout. Et moi, à l'époque, je me disais pas anarchiste. Hein. Donc, j'étais embêtée parce que comment faire pour qu'ils participent à l'émission? En plus, c'était une émission de nuit qui, des fois, durait assez longtemps. Et donc, c'était sur des thèmes et tout. Donc, je m'étais dit, et pourquoi je vous dirais pas? Et vous, en tant qu'anarchiste, qu'est-ce que vous pensez de ce thème? Alors, il y a des fois, c'était, par exemple, bizarrement, sur Frankenstein, c'était très jouable, tu vois, de faire des, on avait fait des rapprochements pour de vrai. Mais par exemple, il y avait des fois, c'était les momies, et tout. Et en tant qu'anarchiste, vous pensez quoi des momies?
Ben, je... C'est difficile.
C'était compliqué. Bon. Donc, si tu veux, je t'ai dit jusqu'au jour où j'ai dit, et nous, en tant qu'anarchiste, et où les copains m'ont dit, ah, t'as dit nous, en tant qu'anarchiste. Ouais, c'est vrai, au fur et à mesure, je m'étais laissé un peu convaincre par l'anarchisme. Mais enfin, tout ça pour vous dire que tout n'a pas un rapport avec tout. Et en effet, tu peux te dire que ça a un rapport dans un sens, mais pas dans l'autre, si tu veux. Je m'y connais pas en mathématiques, mais c'est l'idée de réciprocité et non-réciprocité. C'est-à-dire que je suis absolument convaincue, et c'est assez facile à démontrer, que les satisfactions sexuelles des gens s'amélioreraient beaucoup dans une société où il n'y aurait pas, par exemple, l'obligation de faire un travail débilitant pour pas crever de faim. Enfin, tu vois, que si jamais quelqu'un n'est plus, par exemple, ne souffre plus de la famine, eh bien, il est évident que il va faire de meilleures galipettes une fois qu'il sera plus rassasié. Enfin, dans ce sens-là, c'est évident que, par exemple, les rapports humains en général seraient meilleurs. Donc, bien entendu, tu ferais plus de rencontres, enfin, etc. Dans ce sens-là, je vois tout à fait. Si tu veux que le fait d'améliorer les conditions sociales aurait forcément des répercussions sur la vie sentimentale et sexuelle. Enfin, c'est facile à comprendre. Mais dans le sens contraire, alors vraiment, je vois pas. Enfin, je veux dire, vraiment, je vois pas. Et quand, à un moment donné, ils expliquent qu'il est donc chez cette ouvrière, mais c'est pas le fait de recevoir des ouvriers dans un... Enfin, où ils iront pas, en plus. Enfin, je veux dire, je pense que ça ferait ricaner n'importe qui d'aller dans ce dispensaire pour avoir... Enfin, je sais pas. Et puis, même en admettant qu'il arrive à faire que les personnes aient de meilleurs orgasmes, ce qui déjà est quand même pas évident, puisque il y a des aspects quand même qui sont les conséquences de la vie que tu mènes, quoi. Mais en plus, tu vois pas comment ça les aiderait à lutter contre les injustices. Enfin, tu vois pas. Et ça, il dit qu'il veut le faire. Il peut le faire, mesdames et messieurs, c'est merveilleux. Mais c'est comme dans le sketch de Francis Blanche. Mais en réalité, tu vois pas du tout comment. Et aucun ne le dit. ils t'expriment juste qu'ils ont envie de faire un lien. Enfin, pas besoin de te dire que quand on disait on va faire un lien entre les momies et l'anarchisme, on était bien obligé de noyer le poisson, parce que bien entendu on n'a jamais trouvé moyen de faire un lien entre les deux, si tu veux. Mais donc c'est des gens qui ont quand même pas mal, je dirais, la langue de bois, c'est-à-dire que ils font une sorte de vœu pieux, quoi, tu vois, un peu comme l'autre qui voulait faire quelque chose d'aussi nouveau que la science, mais on attend un peu les résultats, quoi, tu vois, on les attend toujours. Et en effet, c'est juste, tu vois pas comment. Donc, quand tu dis un truc aussi, effectivement, ambitieux pour être gentil que ça, que ce que tu m'as lu tout à l'heure, de qui voulait faire un lien entre ça, 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 ça et ça, tu dis, ouais, mais encore, comment tu vas faire ça? Ça va consister en quoi, concrètement? Et jamais il te le donne. J'ai jamais vu qu'il y ait une révolte collective qui soit partie des dispensaires de sexologie. Je vois pas du tout. D'ailleurs, j'ai beau me creuser la tête, je vois pas du tout comment ce serait possible. Donc tout ça, c'est quand même un peu de l'avant-gardisme. Je fais pas de diagnostic, mais c'est un peu quand même un de diagnostic psy, je veux dire. Mais c'est un peu un verdict. Il aimerait bien, mais il peut point, le pauvre. Si tu veux. Et juste, c'est tellement effectivement incroyable de dire que tu vas faire ça, que t'as quand même un peu intérêt à bouler quelques indices comme quoi t'as vraiment trouvé un moyen de lier tout ça. Enfin, je sais pas comment tu le vois par rapport à ça. Mais j'ai beau me creuser, je vois pas. Hein. Bon. Et il y en a aucun de ces psys m'a encore éclairé ma lanterne.
Je vais lire l'extrait où il rencontre Einstein.
Oui, oui, ouais, c'est pas mal. Hein, alors, c'est sur son histoire de tuyau qui fait bien la pluie.
Alors il est, d'abord, il, en 1939, quelques jours avant que la guerre n'éclate, Reich débarque à New York. Donc, il donnera un cours sur les aspects biologiques de la formation du caractère.
Cool.
À la New School for Social Research et poursuivra ses recherches dans son laboratoire privé. Donc il en vient à considérer que ce qu'il nommait bioénergie est en fait une énergie de vie qui allie le cosmos tout entier.
Oula !
Et que, présente dans l'atmosphère, elle agit chez le vivant comme énergie biologique spécifique. Voilà, et il la nomme alors Orgone, en 1940. Mot construit sur la racine grecque organe, bouillonné d'ardeur. D'où dérivent les mots orgasme et organisme. Pour la concentrer à des fins expérimentales, il construit ses premiers accumulateurs. Ceux-ci sont des sortes de caisses constituées de couches superposées de bois ou d'une autre matière organique, alternant avec des feuilles de métal. Les premiers sont de taille réduite. Reich les expérimente sur des souris saines, puis sur des souris cancéreuses. En décembre, le premier accumulateur à usage humain est mis en service. Le 13 janvier 1941,
Attends, excuse-moi, parce que là, il y a un petit hiatus.
Oui.
Je crois que c'est donc pas pour faire pleuvoir, c'est pour guérir le cancer, en fait.
Là, c'est pour guérir le cancer.
C'est pour guérir le cancer, d'accord. C'est pas la même machine, en fait.
Non, c'est...
D'accord, d'accord.
Oui, ça fait justement le truc de l'énergie qui évoque la pile, parce que la pile, c'est aussi des couches de matières, de métaux différents, c'est comme ça que ça fonctionne et tout. Donc voilà, il y a une sorte d'analogie. Alors, le 13 janvier 1941, il se rend à Princeton, où il a rendez-vous avec Einstein. L'entretien très cordial, pendant lequel Reich expose ses expériences sur l'orgone, oui, c'est parce qu'il y a une faute, il met un i à la place, à un Einstein bienveillant et intéressé, dure près de 5 heures. Reich promet de lui envoyer un petit accumulateur d'orgone pour qu'il puisse vérifier par lui-même certains résultats inexplicables par les lois physiques connues.
Juste une parenthèse, je trouve que la démarche est très bien de la part de Reich, puisque c'est en effet ça le protocole scientifique, pour qu'une théorie soit pas simplement n'importe quoi. Il faut que ce soit en effet vérifié par une instance indépendante et reproductible. Oui. Donc sa démarche en soi était, j'approuve, si tu veux. Oui. Mais bon.
Einstein l'assure que si les observations se confirment, il soutiendra sa découverte. Reich apporta lui-même ce petit accumulateur les premiers jours de février. Celui-ci fut installé sur une table dans la cave d'Einstein et aussitôt, ils firent ensemble quelques observations. Einstein demanda à poursuivre ses observations pendant quelques jours et promit à Reich de lui écrire, ce qu'il fit 10 jours plus tard. Dans sa lettre, il confirma d'abord ce qu'il avait observé lors de l'installation de l'accumulateur et les jours suivants, puis indiquait comment l'un de ses assistants avait alors attiré son attention sur les phénomènes de convection de chaleur existant dans la pièce. Cette réponse fut pour Reich un coup très dur. Moins d'une semaine plus tard, il envoya à Einstein une longue lettre mémoire bourrée d'observations qui balayait l'interprétation conventionnelle de son assistant. Einstein ne répondit pas.
Oh. Oh, c'est pas de chance. Bah, c'est encore un truc, c'est comme pour faire pleuvoir. C'est vraiment dommage que, alors qu'il avait trouvé un super appareil pour guérir le cancer, que personne, alors avec tous les groupies qu'il a, enfin les fans qu'il a, Reich, que personne n'ait eu idée de poursuivre ses expériences. C'est quand même. Mais si tu veux, c'est vrai que pour malgré tout. Pour appuyer des théories aussi audacieuses, hein, pour parce que c'est vrai, c'est quand même assez audacieux. Et puis qui, si elles avaient donné des résultats, auraient eu des effets tellement positifs quand même. Je veux dire, c'est dommage qu'on ait quand même que des éléments très discutables, on va dire. Tu vois, c'est dommage parce que ça valait le coup quand même.
Oui. Alors, enfin, il finit mal quand même, Reich, parce qu'il finit en prison. Il meurt en prison.
Ah ben, de toute façon, que si c'est souvent un argument de ses fans, c'est que comme il a été réprimé, indéniablement, ben dans le sur le côté, les victimes de nos ennemis deviennent brusquement nos alliés et même des gens qui peuvent être que des gens intéressants, bien, etc. Si jamais c'est comme ça que tu vois les choses, indéniablement, il a pas plu à tout le monde. Mais c'est pas ça veut pas dire forcément que ces théories avaient le moindre fondement, quoi, si tu veux.
Oui, oui.
Est-ce que tu m'as dit qu'il y avait Kate Bush qui avait fait une chanson?
Oui.
À propos de son appareil à faire pleuvoir. C'est vrai que ça fait rêver quand même.
Oui. Alors c'est vrai qu'en 1952, donc Reich construit son premier Cloud Buster, brise-nuage, destiné à agir au travers de l'orgone atmosphérique sur la concentration ou la dissipation des nuages. Expérimentation durant l'été, les journaux locaux signalent plusieurs pluies inespérées.
Et ça aussi, je dis pas peut-être que c'est vrai, mais j'aurais bien voulu les voir, moi, les journaux locaux. Excuse-moi, mais il y a quand même beaucoup de trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment mauvais esprit. Il faut vraiment, mais vraiment, je suis vraiment Saint Thomas. Hein. Moi, il faut que je touche, il faut que je vois les preuves.
Oui,
il suffit pas de me dire, mais c'est les journaux locaux l'ont dit. Pour que je le croie. Je voudrais bien aller voir les journaux locaux. Parce que j'ai vu trop de conspi, par exemple, faire des affirmations du même genre. Si, c'est avéré, d'ailleurs c'est prouvé. Et tout, tu dis si c'est prouvé, bah balance-moi les preuves. Et là, pour moi, c'est un peu faible. Premièrement, même si c'est vrai qu'il y a eu des pluies inespérées, je demande. Ça pourrait être des coïncidences, mais je suis même pas du tout convaincue que ce soit vrai. Ce que je veux dire, je vois bien William Reich en train de dire ça d'un ton très affirmatif. Si, d'ailleurs, les journaux l'ont dit, etc. Je trouve que quand même, c'est bizarre. Il n'a pas abandonné ses recherches et que on peut pas avoir plus d'éléments de preuve que cette affirmation-là, qui me paraît très... Alors qu'il a bien gardé sa machine, malgré tout. J'y crois pas, en un mot commençant. J'y crois pas, je suis du genre assez sceptique, quand même, tu vois. Ouais.
Alors,
donc, Kate Bush ?
Oui, parce que plus tard, Peter Reich, le fils de Wilhelm Reich, publie un livre intitulé A Book of Dreams, où il décrit la relation toute particulière qui le liait à son père. Il y décrit leur vie à Organon, aujourd'hui le musée Wilhelm Reich, et le plaisir qu'ils prenaient ensemble à faire pleuvoir grâce à la machine, le Cloudbuster, de son père. L'artiste Kate Bush a lu le livre de Peter Reich, et qui l'inspira pour composer sa chanson Cloudbusting.
Je comprends que c'est quelque chose qui a inspiré Kate Bush, mais les propos du fils de Wilhelm Reich, qui dit « on prenait plaisir à faire pleuvoir », je trouve que c'est un peu faible, si tu veux, comme preuve que vraiment ces tuyaux faisaient pleuvoir, alors que si vraiment ce truc faisait pleuvoir, ça aurait peut-être pu sortir un petit peu de la sphère privée, tu vois. Donc je suis très très dubitatif.
Oui. Non, j'imagine que c'était quand il était très petit, quoi. Enfin, quand il était enfant, et donc
son père. C'est gentil. T'as vu, il pleut. C'est grâce à ma machine.
Viens, on va faire pleuvoir.
Oui, voilà. Puis même à chaque fois qu'il pleut.
Je t'emmène à bord de ma machine et tout.
Tu vois, il pleut, c'est grâce à ma machine. Enfin,
oui.
J'imagine bien des trucs comme ça.
Alors, on écoute Cloudbusting de Kate Bush.
I still dream of Organon. I wake up crying. You're making rain, and you're just in reach. When you in sleep escape me, you're like my own.
Et voilà, la pluie tombe.
Ah, je suis bouleversée, je la trouve géniale cette chanson, vraiment, je l'adore. Ça me fait vraiment quelque chose, quoi, hein, vraiment.
Donc, on est toujours sur Radio Liberté, émission L'Entonnoir, et merci à une auditrice qui a appelé. Voilà.
Alors, vu ce que tu m'as rapporté, je peux peut-être répondre. D'accord. Alors, premièrement, je dois déjà dire, parce qu'on a fait dans l'émission lundi matin avec Laurent et Nicolas, on a souvent exprimé le peu de considération qu'on avait pour le mouvement Gilets jaunes, qui est un peu de break it broke, qui avait vraiment, ça a rien de dire, enfin, ça ratissait beaucoup trop large pour pouvoir représenter un quelconque intérêt collectif. Et d'ailleurs, quand ils avaient fait l'Assemblée des Assemblées, le résultat, enfin, c'était que, par exemple, il y en avait qui étaient pour abolir le capitalisme et puis d'autres non. Si tant est qu'on a la même vision de ce qu'est abolir le capitalisme aussi. Mais il y avait vraiment de tout, hein, dans les, chez les Gilets jaunes. Quand, donc, cette auditrice dit tout psychanalyste devrait être révolutionnaire, je dirais tout boulanger, tout, oui. C'est vrai, tout ouvrier de chantier, tout, je sais pas, ça me paraît, et même tout feignant professionnel devrait être, comme moi par exemple, pourquoi pas, c'est mieux d'être révolutionnaire, mais le rapport de cause à effet me paraît pas du tout évident. Et sur ce qui est d'ouvrir des dispensaires, on en a parlé tout à l'heure, le problème c'est que déjà, pour pouvoir changer de mentalité au point de vue politique, en admettant même que la psychanalyse n'ait jamais marché, je vais te donner un exemple de Gilets jaunes qui était pas mal, des matons Gilets jaunes, et pour faire la grève pour leurs conditions de travail et leur salaire, ils avaient fait la grève des parloirs et des colis pour les prisonniers. C'est cool, non? Et il y avait des trucs aussi, comme à Commercy, par exemple, il y avait eu dans une manif, et c'est vrai, hein, on peut le vérifier, c'était les pères qui voulaient pas payer de pension alimentaire. Parce qu'à ce moment-là, il y avait, le président avait décrété qu'on les obligerait à payer la pension alimentaire. Et ils voulaient pas. Donc ils avaient, dans une manif, ils avaient gilet jaune contre le fait de payer la pension alimentaire. J'en ai jusqu'à demain, des comme ça. Ah oui, ben, il y a un truc qui était pas mal aussi, que j'avais trouvé aussi assez significatif, c'était une usine Monsanto Bayer, je t'apprends pas ce que c'est, ouais. Et donc il y avait un petit choc quand même des motivations, puisque t'avais des écolos qui étaient venus, tu t'en doutes, pour demander à ce que l'usine soit ratatinée, et t'avais des syndicalistes qui avaient été qu'il y avait eu un plan social et qui demandaient à ce qu'on les réintègre et avec de meilleurs salaires. Donc autant dire que pour arriver à faire quelque chose de révolutionnaire, faut peut-être déjà se mettre un peu d'accord sur les objectifs, on va dire. Oui. Tu vois. Bon, enfin, ça, c'est une parenthèse sur les Gilets jaunes, mais le fait est que, pour ceux qui s'imaginent qu'on pourrait changer les mentalités grâce à la psychanalyse, il faut sortir de l'abstrait, il faut sortir des généralités de la langue de bois. Imaginez, par exemple, tiens, je vais te prendre un exemple au hasard, CNews, par exemple. Hein, t'as vu les gens de CNews, ouais. On va dire, ils sont ultra réac, pour pas dire pire.
Bien sûr.
On est d'accord.
On est d'accord.
Racistes, vraiment aussi réac que c'est permis de l'être. Mm-hmm. Et donc, bien sûr, la psychanalyse, on va les envoyer la psychanalyse de force, je crois pas, mais de toute façon, même quand t'es volontaire, je suis déjà pas certaine que ça ait le moindre résultat, mais si t'es pas volontaire, et honnêtement, je crois que quand on prend des exemples concrets et précis comme ça, on voit bien à quel point c'est de la foutaise. Comment est-ce que tu veux qu'on envoie les gens? Ils voient pas où est le problème, eux. Pourquoi ils se feraient soigner? Est-ce que tu crois vraiment? On a tous connu dans notre famille ou ailleurs des racistes, ou quand on les voit à la télé, effectivement, et tu crois vraiment qu'on va les guérir grâce à la psychanalyse ou une quelconque thérapie, une machine, je sais pas quoi, qu'on va les guérir de leur racisme? Ils ont jamais trouvé que c'était un problème. Les agresseurs sexuels qui ont rien fait, de toute manière, ils voient pas où est le problème. Je vois pas comment tu les soignerais, puisqu'ils ont pas de problème. Donc, et puis si tu prends des périodes ou des pays qui sont aux mains des fascistes, on voit bien qu'il faut sans doute lutter, mais que dire que tu vas les envoyer se faire soigner, c'est comme attraper un oiseau en lui mettant du sel sur la queue. Si déjà il se dit qu'il a un problème, c'est que tu as déjà fait les trois quarts du chemin. Mais ce n'est pas du tout le cas. Donc si tu veux, c'est un truc qui est de l'ordre du pur fantasme. Du pur fantasme, c'est de la langue de bois. T'es obligé de noyer le poisson. Si tu commences à te figurer que grâce à la psychanalyse, tu vas soigner des problèmes politiques. les injustices sociales, les patrons, ils vont, tu crois qu'ils vont aller se faire soigner pour arrêter d'exploiter le pauvre monde? Non, mais je veux dire, je sais pas. Tu dis, t'as vu la guerre en ce moment? Est-ce que tu crois vraiment que on va envoyer les chefs militaires et les chefs d'État, on va les envoyer à la psychanalyse? Si tu les envoies, c'est que ça sera pas volontaire. Et est-ce que tu crois que eux, ils se disent qu'ils ont un problème et qu'ils devraient se faire soigner? Bon, je ne sais pas comment ça se passe pour eux plus mal, mais tu sais, je veux dire, c'était un truc que croyaient beaucoup dans les années, enfin tu vois, dans les vieux actuels, ils croyaient que les bourgeois, justement, ils baisaient que dans le noir le samedi soir, les autres, enfin les babacools, etc., eux, ils s'éclataient vachement au plus mal. Mais c'est pas pour dire, mais les bourgeois étaient d'ailleurs dans de meilleures conditions pour ça, mais ça n'a rien à voir. Je pense que ils sont déjà dans des meilleures conditions pour de logement, de non-travail débilitant, pour pouvoir mieux baiser. Et ils auront même peut-être accès plus facilement à des partenaires, de toute manière. Et donc, je ne sais pas au nom de quoi tu te figures qu'ils ne s'éclatent pas au plus mal, et je ne vois pas le rapport. Tu dis que t'as vachement, t'as eu un super orgasme, et après tu dis oh quand même c'est pas cool d'être raciste, c'est pas cool d'exploiter les gens pour avoir plus de sous dans ma poche, c'est pas bien ça. Oh je vais aller tout de suite dans ce dispensaire ou même payer et tout pour qu'on me soigne de cette tare qui consiste à essayer de me faire un max de blé sur le dos des autres. Non mais on va, ou alors je vais pas faire la guerre, c'est très vilain. Enfin je sais pas, c'est tellement délirant. Je veux dire, nous au moins, on se rendait compte tout seul qu'il n'y avait pas de rapport entre les momies et l'anarchisme. Mmh. Tu vois, donc bon, on se disait, bon, là, peut-être on va essayer d'éviter le sujet du rapport avec l'anarchisme. Tu vois, mais il y en a qui continuent sur des trucs, mais qui peuvent pas se vérifier. Encore une fois, une démarche scientifique, ça doit être l'expérience doit être reproductible et vérifiée par une instance indépendante. Là, c'est juste de la parlotte.
Ouais, voilà. Cette association entre psychanalyse et politique, c'est dans les années 60-70. Chez les ces militants-là, il y avait l'idée que la psychanalyse pouvait être révolutionnaire, en fait.
Oui, mais enfin, ça, c'est, je peux te dire aussi que manger un pain au chocolat, c'est révolutionnaire. Ça mange pas de pain, si je veux dire. Non, mais c'est vrai. C'est révolutionnaire. Il peut le dire, il peut le prouver, mesdames et messieurs. Voilà. C'est révolutionnaire. Ouais. Et en quoi c'est révolutionnaire? Grosso modo. Ouais.
Alors, on va faire une annonce, et puis tu vas faire aussi ton annonce, parce
mon
que
annonce.
Tu parlais justement de Maton tout à l'heure, mais peut-être qu'il y a...
Oui, c'est un peu...
Il y a un rapport avec...
Voilà, oui, c'est un peu lié à ça. C'est-à-dire que le groupe libertaire d'Ivry, donc, dont je fais partie, ainsi que Laurent et Nicolas, Laurent et Nicolas qui font l'émission lundi matin, on va donc projeter le samedi, on n'a pas pu avoir un dimanche, donc c'est un samedi après-midi, samedi 20, qui vient, là, le samedi 20 juin. La projection, ça sera à 16h, mais on fera un accueil dès 15h. Et puis, évidemment, la librairie est ouverte tout l'après-midi, donc vous pouvez toujours venir. Et après, on fera une discussion. Donc, le film qu'on va projeter, on l'avait déjà projeté dans le passé, ça s'appelle L'Expérience, et c'est d'après une véritable expérience qui le film est assez éprouvant, hein, je dois dire, qui s'appelait L'Expérience de Stanford. Et comment dire, c'était des sociologues qui avaient eu l'idée, comme ça leur était passé par la tête, de faire une expérience avec des volontaires, enfin des volontaires payés, enfin des gens qui... C'est un peu comme l'expérience de Milgram, tu oui. vois, le truc qu'on voit dans Icomicar, où il faut électrocuter les gens, dont l'interprétation, enfin moi j'ai pas la même que celle qu'ils ont eue dans Soumission à l'autorité. Je pense que c'est que les gens, quand on les laisse lâcher leur sadisme, ils se lâchent. Donc en effet, c'est un peu ce qui se passe dans cette expérience, où il y en a qui vont jouer les matons et parmi les volontaires, et d'autres qui vont jouer les prisonniers, et ce serait tiré un peu au sort, quoi. Et donc il y a une partie importante de ceux en particulier qui font les matons, parce que les prisonniers, ma foi, ben ils subissent, évidemment, comme les vrais prisonniers. On peut pas dire que c'est le même problème que les que les matons, et donc ils commettent de nombreux abus. Et je tiens à le dire parce que, par exemple, notre copine du groupe, Noémie, elle a eu du mal avec ce passage-là, il y a une tentative de viol, même à un moment donné, quoi, parce que ils se sentent pupissés, quoi, ceux qui sont dans un rôle de matons.
C'est-à-dire qu'ils se prennent à leur rôle.
Ah oui, ils se prennent totalement à leur rôle. Donc, il y en a qui pensent, c'est pour ça qu'en rédigeant l'annonce, on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on précise un truc, parce que des gens disait ah mais c'est parce que les gens qui sont par exemple qui font un métier de répression, c'est pas de leur faute, c'est la fonction qui fait ça, etc. Or à la différence de l'expérience de Stanford, tu deviens pas maton complètement par hasard, si t'es pas une sacrée ordure à la base, c'est quand même que si tu veux, t'es au moins pas du tout dégoûté dans l'idée de d'enfermer, d'humilier tes semblables. T'as vu le petit visuel, c'est un visuel de l'envolée d'ailleurs.
Oui, il faut le regarder, c'est à la radio, c'est difficile à...
Oui, c'est difficile. Enfin, c'était une pub pour devenir maton, fier de d'être utile à la collectivité, pour que les gens se fassent embaucher maton. Mmh. Et puis donc le visuel de l'envolée, c'était avec le même la même tronche de mec l'air
oui, avec avec le comment dire
tout fier.
Administration pénitentiaire.
Oui, voilà, puis tout fier, fier. Là, c'est fier d'enfermer, d'humilier, c'est semblable pour un salaire.
Et jeune, hein,
sur la voilà, fiche. Et puis le site, c'est fier d'être devenir un sale type. Voilà. Donc, oui, voilà, on n'a aucune espèce d'indulgence pour des gens qui font un boulot pareil. Si tu veux, on ne croit pas un instant que c'est pas de leur faute, ils n'ont rien trouvé. Ils ne m'en diraient pas. Hein, leur dignité leur interdirait, mais torturer les gens, ça les dérange pas. Enfin bon, bref. Donc voilà. Donc je tiens à signaler aussi que dans la réalité, il y avait une cinquantaine de personnes directement et indirectement impliquées. Ça a dégénéré dans la réalité, ça a dégénéré très très vite. Mais malgré tout, les gens réagissaient pas. Il y a eu qu'une seule personne qui s'est battue pour que ça s'arrête avant les 15 jours, au bout de 6 jours au lieu des 15 jours prévus. Mmh. Parce que ça commençait à franchement tourner au vinaigre, quoi. Voilà, donc voilà, si ça vous
intéresse, qu'il faut aller voir.
C'est le samedi 20 et l'entrée est libre, évidemment. Voilà. Mais pas la sortie.
À Publico, 145 rue Amelot, donc métro Oberkampf, Fille du Calvaire ou République. Voilà. Alors, une autre annonce, un appel à manifestation le 12 juin au CHU, donc 12 juin c'est après-demain, dans 3 jours, au CHU de la Timone à Marseille, se tient une journée avec la Fondation Fondamentale où comment ce cheval de Troie compte supprimer le soin public. Une pote à Macron, des millions venus de LVMH et de Sanofi, de la science biologique de précision, et hop, voilà la Fondation Fondamentale qui souhaite prendre le marché de la psychiatrie. Un prélèvement sanguin, et on vous dit si vous allez faire une dépression dans 30 ans. Plus besoin d'accompagnement avec un psy, juste des médicaments, et puis voilà. Ce cauchemar idiot et hygiéniste est aux portes de notre société avec une proposition de loi en cours pour faire entrer cette idée dans le code de la sécurité sociale. Rejoignez-nous le 12 juin à 8h devant le CHU de la Timone à Marseille pour alerter les professionnels et étudiants.
Excuse-moi, il y a peut-être quelque chose, j'ai pas bien compris. Quand ils disent il y aura même plus d'accompagnement psy, c'est que en fait ce qui est préconisé, c'est pas de médicaments, mais un psy, c'est ça, et qui participerait à ça.
Alors,
ce serait des professionnels,
les appellistes donc de cette manifestation sont aussi pour une grande partie des soignants.
Qui verse. C'est bien de le savoir.
Et d'ailleurs, il y a toujours une guerre en ce moment entre les partisans des psychothérapies analytiques et de l'autre côté des neurosciences, enfin
c'est logique, ça a toujours été. C'est structurel, je veux dire.
Oui,
c'est logique qu'ils ne soient pas sur la même longueur d'onde.
Comportemental.
Bah, c'est l'un ou l'autre. Enfin, je veux dire, la plupart du temps, tu te dis, ceux qui ne prescrivent pas de médicaments, ils peuvent pas être contents qu'on préconise de les court-circuiter, alors qu'il faut quand même bien qu'ils payent la maison de campagne, que de les court-circuiter en ayant plutôt recours aux médicaments qu'à leur grand service, tu vois. Je veux dire, je trouve ça logique et je pense que ça a toujours été comme ça. Qu'ils se sont toujours tirés la bourre, je veux dire. À mon avis, hein.
Voilà, donc la Fondation Fondamentale, structure de mes privés de coopération de recherche scientifique qui sent bon la Startup Nation et la blouse blanche condescendante, on a l'ambition de faire de la médecine personnalisée en psychiatrie. On recherche les liens entre la biologie et la psychiatrie pour proposer des traitements sur mesure en fonction des caractéristiques cliniques et biologiques des personnes. On a l'ambition de faire de la médecine prédictive en psychiatrie. Viens aux urgences, donne ton sang, on l'analyse et on prédit le cours de ta maladie sur les 20 prochaines années. Combien tu feras d'épisodes de maladie, si tu auras des hallucinations ou pas, combien d'arrêts de travail, la couleur de ton t-shirt dans 3 ans. Le tout arrosé d'intelligence artificielle et de lobbyisme politique affiché. Pourquoi pas ? Parce que malgré des années de recherche... Parce que malgré des années de recherche en psychiatrie biologique, malgré des millions investis à travers le monde, malgré les propositions alléchantes de guérir les maladies mentales, on n'a pas de preuves scientifiques suffisantes démontrant l'utilité des biomarqueurs ni l'existence de la médecine prédictive en psychiatrie.
On n'a pas non plus des preuves de que ça marche, que ça marche non plus les thérapies individuelles, on remarque bien. Et... quid de l'enfermement, par exemple, sur leur proposition. J'ai peur que ce soit un peu la peste et le choléra, quand même.
Bon, en tout cas, on peut très bien être contre ces principes-là. Les centres experts, par exemple, qui vont se développer. Mais on n'est pas obligé non plus, pour cela, d'adopter les autres formes de... psychothérapie, qui comprennent aussi de la coercition, disons quelque chose, peut-être parfois des injonctions et des choses.
Bah oui, on n'a pas attendu après les neurosciences pour enfermer les gens, à ma connaissance.
Bon, en tout cas, voilà, la psychiatrie biologique...
vrai que c'est inquiétant aussi.
C'est inquiétant, c'est très inquiétant.
Mais bon...
Voilà, et bien...
Et dis donc, il n'a pas été question de refaire une Mad Pride. J'étais dubitative l'année dernière, mais tu m'as convaincu que ça n'avait pas l'air si mal et que justement, ils avaient squeezé les soignants. Donc, je suis très intéressée. C'en est où, alors, la préparation de la Mad Pride ?
Alors, il y a des réunions régulières. La prochaine, par exemple, alors ça s'appelle « Co-organisation de la Mad Pride Autonome Paris ». À la Mutinerie, c'est rue Saint-Martin, je crois. 176 rue Saint-Martin à la Mutinerie, c'est un lieu LGBT, QIA+, etc. Et là, c'est.
Tu ne comptes pas essayer d'y aller ?
D'après un article de Paris Lutte Info, la prochaine co-organisation de la Mad Pride sera le 18 juin. Jeudi 18 juin à 13h. Mais il faut, c'est toujours bien de passer un message à la Mutinerie avant, quoi.
Bah, on pourrait faire ça, moi je serais trop intéressé.
Oui, je rappelle un peu le propos, hein. C'est que. L'organisation intercollective de la Mad Pride Autonome Paris appelle à la participation de personnes et collectifs de personnes concernées par la psychiatrisation à l'organisation de la Mad Pride 2026. Notre ligne, par-dessus toute chose, nous tenons à des rapports militants qui relèvent du soin et du respect. Nous pensons que le processus d'organisation commune de la Mad Pride est aussi important, sinon plus, que l'événement final lui-même. Notre ligne est anti-psy, nous défendons une ligne abolitionniste, anticarcérale et revendiquons le soin communautaire. Nous tenons à une non-mixité de personnes psychiatrisées et à l'exclusion de toutes soignants de nos luttes. Hors père aidant, hors institution. C'est-à-dire qu'on accepte... Alors, nous voulons que Mad Pride, une Mad Pride autonome, mais également ouverte et avant tout festive. Notre ligne est intersectionnelle. Nous sommes attentives à toute forme de domination et tenons à ce que ceux et celles d'entre nous qui sont multiplement opprimés soient présents et présentes. Nous voulons une Mad Pride queer, féministe, antivalidiste, antiraciste et anticapitaliste. Voilà, bon, je dis pas tout, mais...
Ok, allez, notre carrosse se change en citrouille. Il est la nuit, je crois.
Argue. Bon, eh bien, à la semaine prochaine.
Cette situation malsaine me fait mal jusqu'aux entrailles. Un smartphone dans la main, une bougie dans la tête. Le monde de demain sera-t-il encore plus bête?
Je vois rouge quand j'entends l'autoritarisme ambiant. Y'a mon sang qui bouillonne, fais un tour de Babylone. Pas dressé quand je sens qu'on m'enferme dans un carcan. Révolté à jamais, rien à faire pour me calmer.
Il ne faut pas oublier qu'on est énervé. Énervé, énervé, on est énervé. Il ne faut pas oublier qu'on est énervé. Énervé, énervé, on est énervé. Ce monde stupide me donne des hémorroïdes. Et ce monde acier me donne envie de dégueuler. Et les remontées acides me font mal au vide. À force de gueuler comme Patrick, j'ai la voix cassée.
Assisté, impuissant, ça n'a rien de reposant. Ulcéré, tout le temps, nuit à la santé gravement. La mâchoire, trop serrée, les dents n'ont pas supporté. De la purée, à manger, c'est donc ça ma destinée.
Il ne faut pas oublier qu'on est fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué d'être énervé. Il ne faut pas oublier qu'on est fatigué. Fatigué, fatigué, fatigué d'être énervé.